Tous les lundis, quand j'ouvre ma boîte à lettres, je suis consterné et je prends le deuil pour tous les arbres qui ont dû être sacrifiés afin que, comme des millions d'autres personnes, je puisse recevoir près d'un kilo de papier publicitaire dont je n'ai pas besoin. C'est fou et scandaleux. De nos jours, on clame haut et fort qu'il faut limiter les gaz à effet de serre, ralentir l'échauffement climatique, diminuer l'empreinte carbone, recycler et réduire la quantité de nos déchets, mais plus ça change et plus c'est la même chose. Il y a toujours et encore des tonnes de papiers publicitaires qui atterrissent dans nos boîtes à lettres. Eh bien, figurez-vous qu'à la fin du premier siècle de notre ère, il y a au moins une personne qui a écrit deux lettres différentes et pour des raisons que nous ignorons, il n'a pas voulu utiliser plus d'une seule feuille de parchemin pour chaque missive. Je ne plaisante pas, il dit lui-même, à la fin de l'une puis de l'autre lettre, « J'aurai encore bien des choses à vous dire, mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. Alors notre joie sera entière. J'aurai bien des choses à te dire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. » En avance sur son temps, l'apôtre Jean était quelqu'un de bien. Au lieu de consommer du parchemin et de l'encre, il préférait faire le déplacement. Aujourd'hui, on communique énormément et quelquefois essentiellement par courriel. Ce moyen électronique a le mérite de ne pas écorcher vif de pauvres arbres, mais c'est quand même très impersonnel, encore plus qu'une lettre, car au moins quand on écrit avec une plume ou un stylo, on transmet quelque chose de soi, puisque nous avons tous des écritures différentes. Il existe même une science, la graphologie, qui consiste justement à découvrir la personnalité de l'auteur d'un texte manuscrit au travers de la façon dont il écrit les lettres, les mots et leur enchaînement. Bref, tout ça pour dire que l'apôtre Jean, puisqu'il s'agit bien de lui dont je parle, était non seulement un grand homme de Dieu, mais aussi, et sans le savoir, un écologiste avant l'heure. Je plaisante, bien sûr, parce qu'à son époque, les supports sur lesquels on écrivait n'étaient pas en papier et ne finissaient pas à la poubelle. On les gardait précieusement ou on essayait de les réutiliser autant de fois que possible et en plus, ils étaient biodégradables. Peut-être qu'on devrait aussi revenir à des chariots tirés par les chevaux. Jean est non seulement un apôtre, mais on lui doit également un évangile et trois épîtres. La deuxième et la troisième sont les deux livres, ou plutôt les deux lettres, les plus courtes du Nouveau Testament. Le texte grec de chacune compte moins de 300 mots et aurait pu paraître en entier sur une seule feuille de papyrus. La façon dont elles sont rédigées correspond à la lettre conventionnelle du monde gréco-romain du 1er siècle. Mais comment savons-nous qu'il s'agit bien de l'apôtre, le fils de Zébédée, qui a écrit les deux petites épîtres qui portent son nom? Eh bien, la tradition a toujours attribué la même paternité à l'auteur de 1 Jean et de 2 Jean, car il existe une grande similitude de style et de contenu entre elles. Par exemple, dans la seconde épître, Jean dit « À présent, chère grande dame, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. » Ce qui semble être l'écho d'un passage de la première épître qui est « Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. » Nous avons aussi le témoignage de ceux qu'on a coutume d'appeler les pères de l'Église. Je vais en citer quelques-uns et ça va être un peu barbant, mais utile pour comprendre le processus complexe de canonisation des textes sacrés. Au IIe siècle, dans son traité contre les hérésies, Irénée de Lyon cite 3 versets de la seconde épître de Jean. Clément d'Alexandrie dit que la seconde épître de Jean fut écrite à quelqu'un de Babylone surnommé la Dame Élue. À la fin du IIIe siècle, ou début du IVe, Eusèbe de Césarée, évêque, théologien et père de l'histoire ecclésiastique, reconnaît que Jean II et Jean III n'étaient pas universellement acceptés, mais qu'à son opinion, elles étaient authentiques et avaient Jean pour auteur. Toujours selon lui, Denis d'Alexandrie, qui fut évêque de cette ville au IIIe siècle, aurait fait observer que Jean ne donne jamais son nom dans ses épîtres, même pas dans sa seconde et troisième, où il se nomme l'Ancien. Ce même Eusèbe écrit qu'Origène, un père de l'Église de la première moitié du IIIe siècle, acceptait personnellement Jean II et III, mais reconnaissait que quelques-uns les mettaient en doute. Au IIIe siècle, Saint Cyprien, évêque de Carthage, dans un fascicule qui faisait référence au concile qui se tenait dans sa ville, cite un verset de la seconde épître de Jean. Au IVe siècle, Alexandre, patriarche d'Alexandrie, cite deux versets de la seconde épître de Jean. Ces exemples montrent que dans les églises d'Afrique du Nord, la seconde épître de Jean ainsi que la troisième étaient largement acceptées comme inspirées par Dieu, avec l'apôtre Jean comme auteur. Ailleurs, par contre, cette acceptation fut plus laborieuse. Au IVe siècle, Éphrem le Syrien, qui est considéré comme le plus important père de l'Église syrienne, acceptait la seconde épître de Jean comme émanant de Dieu. Cependant, au VIe siècle, l'Église de Syrie, qui était très importante, ne reconnaissait comme inspirée de Dieu que les épîtres de Paul, la première de Jean, la première de Pierre et celle de Jacques. Il y avait donc de sérieuses divergences d'opinion. Jérôme, père de l'Église au IVe et Ve siècle, cite les deux dernières épîtres de Jean et les attribue à l'Ancien, c'est-à-dire l'apôtre Jean, dont le sépulcre est à Éphèse. Étant donné que 2 et 3 Jean, deux épîtres minuscules, nous sont parvenus, leur préservation est un hommage rendu à leur intérêt, à leur spiritualité et à leur inspiration par le Saint-Esprit. En effet, malgré leur brièveté, elles sont très importantes parce qu'elles mettent toutes deux l'accent sur la vérité. Ce sujet a toujours préoccupé les hommes puisque même la brute épaisse qu'était Ponce Pilate a demandé à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Aujourd'hui, à cause de la montée en puissance du relativisme, on a évacué la notion de vérité, ce qui fait que peu de gens demandent « Qu'est-ce que la vérité ?» En effet, pour eux, cette question ne se pose même pas, puisque la vérité au sens absolu du terme n'existe pas. Tout ce que nous avons sont des vérités toutes relatives qui varient selon l'opinion de chacun. On pourrait donner à la seconde épître de Jean le titre « Pour l'amour de la vérité ». Si un jour, au gré des circonstances, on est obligé de faire un choix entre d'une part manifester de l'amour ou de la charité, et d'autre part demeurer fidèle à ce qu'on sait être vrai, on devrait choisir la vérité. C'est ce que Jean explique dans sa seconde épître. Si un faussaire spirituel vous demande asile, ne le recevez pas, qu'il couche dehors. Je ne suis pas sans cœur, mais sur le long terme, c'est la vérité qui compte et qui triomphe. Jésus a dit aux Juifs, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » On pourrait me répliquer que l'apôtre Paul a dit, « En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » Non seulement il ne dit rien concernant la vérité, mais il place l'amour en tête de liste. C'est vrai, mais il faut bien voir que la foi, l'espérance et l'amour n'ont de valeur que si elles sont fondées sur la vérité, sur une réalité solide et digne de foi. L'amour entre deux personnes est basé sur un sentiment de confiance qui provient d'une relation vraie ou qu'au moins l'un des deux croit telle. Mais si cette union est fondée sur le mensonge, c'est une illusion qui, tel un mirage, s'évaporera très vite. L'amour sans vérité, c'est du sentimentalisme de bas étage. Je peux croire dur comme fer et en toute sincérité en quelqu'un ou en quelque chose qui est faux. Et au final, je serai amèrement déçu ou pire. Quand on saute en parachute, on n'a pas droit à l'erreur. Peut-être avez-vous lu ou entendu cette histoire qui, je crois, s'est même répétée plus d'une fois. Un instructeur de parachutisme était dans l'avion avec ses élèves. Il s'est assuré que chacun d'entre eux était parfaitement bien harnaché avant de les autoriser à sauter. Puis il s'est équipé avec ce qu'il croyait être son parachute et s'est jeté dans le vide. Malheureusement, c'était son sac à dos qu'il portait. La même chose est arrivée à un instructeur d'El Delta à Crawl dans les environs de Grenoble. Il a parfaitement sanglé son élève et puis ils se sont lancés de la falaise. Mais il était tellement préoccupé par les détails qu'il a complètement oublié de s'attacher. Il s'est tenu uniquement par la force des bras jusqu'à ce qu'il soit obligé de tout lâcher. Heureusement, quand il a réalisé son erreur et qu'il était perdu, il a expliqué à son élève comment atterrir et pour ce dernier, tout s'est bien passé. Ses instructeurs avaient la foi que tout allait bien se terminer et la certitude qu'ils atterriraient sains et saufs. La foi, l'espérance et l'amour n'ont de valeur que s'ils ont la vérité, la réalité, pour fondement. La plupart des gens qui ont fait une expérience de mort imminente, qui sont presque allés de l'autre côté, mais qui sont revenus, sont absolument convaincus qu'il n'y a pas de jugement et qu'une vie de félicité les attend. Ils n'ont plus peur de la mort, car ce n'est qu'un passage vers une autre vie merveilleuse et pleine d'amour. Les fautes dont ils ont pu se rendre coupables ne sont que de petites erreurs, et l'être de lumière qui les attend sera de toute façon très compréhensif. Ils n'ont évidemment pas besoin d'un sauveur et leur espérance de la vie éternelle est béton, une certitude sans faille. Tout ça a l'air bien beau, mais c'est du mensonge, car ça ne cadre pas du tout avec les Écritures. Seulement, ils ne sont pas disposés à les écouter. Bien que Jean défende la vérité, il serait parfaitement d'accord avec l'apôtre Paul qui place l'amour au sommet de l'affiche parce que l'un des thèmes principaux de la première épître de Jean est l'amour entre les membres de la famille de Dieu. À ce sujet, il écrit « C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu. » Pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Celui qui ne fait pas ce qui est juste est le même que celui qui n'aime pas son frère. J'ai déjà eu l'occasion de préciser la signification du mot « juste », mais je vais le rappeler parce qu'on le rencontre souvent. D'une manière générale, dans les Écritures, la justice ne désigne pas une norme éthique idéale et absolue, mais une relation saine. Le juste est celui qui, sans l'avoir mérité, est accepté par Dieu et qui maintient son statut en lui restant loyal. En se tournant vers des pratiques idolâtres et donc déloyales, les Israélites se sont comportés d'une manière injuste vis-à-vis de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la justice de Dieu est souvent mise en parallèle avec les actions par lesquelles l'Éternel s'engage pour sauver ou racheter son peuple. Dans un passage du livre de Michée, Dieu dresse une liste de ses actes bienveillants envers Israël, puis conclut en disant « Souviens-toi du chemin que tu as parcouru et reconnais que l'Éternel t'a fait justice. » Par ses actes bienveillants, Dieu a fait justice à son peuple. Plus loin, toujours dans le livre de Michée, le prophète s'identifie à son peuple et dit « J'ai péché contre l'Éternel. Je supporterai donc le poids de sa colère. jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il me fera droit et me fera sortir à la lumière, et je contemplerai son œuvre qui établira la justice. Quand le jugement aura accompli son objectif, l'Éternel défendra la cause de son peuple contre ses ennemis et lui rendra justice en le délivrant de l'exil, en le rétablissant dans son pays et en punissant ses ennemis. L'Éternel rend justice à son peuple dans le sens qu'il se montre fidèle à l'alliance qu'il a établie avec ses ancêtres. La justice de Dieu est sa bonté, sa mansuétude envers ceux qui lui appartiennent. On retrouve ce même sens du mot « justice » dans les paroles de l'apôtre Jean qui dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, c'est-à-dire bon et miséricordieux, et par conséquent il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Le mot hébreu pour « homme fidèle » qui peut aussi être traduit par « homme juste » signifie le miséricordieux, celui qui aime son prochain. C'est ce que la loi demandait au peuple de Dieu et ce que Jésus a confirmé. Ne pas aimer son prochain, c'est être injuste envers lui. De tous les auteurs sacrés, l'apôtre Jean est celui qui a le plus parlé de la vérité. Si j'ai bien compté, il a utilisé 45 fois ce mot rien que dans son évangile. L'apôtre Paul l'emploie aussi 45 fois, mais il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Comme Jean mentionne encore 17 fois la vérité dans ses trois épîtres, il bat tous les records, et pourtant il est appelé l'apôtre de l'amour, et à juste titre, puisque c'est lui qui écrit que Dieu est amour et que nous devons nous aimer les uns les autres. La deuxième épître de Jean est rédigée autour des mêmes événements historiques fondamentaux que sa première. Des enseignants de mensonges répandent leur venin mortel dans des assemblées dont Jean assure à distance la charge pastorale. Or, ces personnes sont très dangereuses pour deux raisons. D'abord, et je trouve ça surprenant, au dire de Jean, elles sont fort nombreuses. Et ensuite, elles sont issues des assemblées chrétiennes. En effet, dans sa première épître, Jean écrit « Ses adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous, mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. » Les véritables croyants connaissent ces faux enseignants pour les avoir fréquentés, ce qui fait qu'ils leur font spontanément confiance sans se douter que ce sont des loups déguisés en agneaux. Cette situation rend très difficile la tâche de l'apôtre qui est de préserver son troupeau contre les bêtes féroces. Ces hérétiques ont une stratégie. Ils vont d'une église à l'autre, abusant de l'hospitalité des chrétiens pour répandre leurs mensonges doctrinaux. C'est cette menace que ces faussaires spirituels font peser sur les croyants qui a motivé Jean à écrire sa deuxième épître. Son objectif est de mettre en garde les vrais chrétiens contre le danger de participer par inadvertance aux mauvaises œuvres des enseignants de mensonges en leur accordant l'hospitalité. Jean était peut-être très porté sur l'amour, mais quand il le fallait, il savait aussi tirer l'épée de son fourreau. Jésus l'a d'ailleurs bien discerné, puisqu'il l'a surnommé « fils du tonnerre ». Bien que de tempérament vif, Jean était un personnage discret qui n'aimait pas se mettre en avant, ce qui fait qu'il ne donne jamais son nom. Dans sa deuxième et troisième épître, il dit simplement qu'il est « l'ancien », un mot qui a donné « presbytère » en français, mais qui en grec a deux significations. Premièrement, il veut dire « homme âgé », comme lorsque l'apôtre Paul écrit à Timothée « ne rudoie pas un homme âgé, mais encourage-le comme s'il était ton père ». Deuxièmement, l'ancien veut aussi dire « responsable d'église », ce qui apparaît par exemple quand l'apôtre Pierre écrit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Oui, mais on ne peut pas toujours savoir avec certitude lequel de ces deux sens adopter. Or, on se trouve justement dans ce cas de figure avec Jean qui, dans sa deuxième épître, se présente en disant « L'ancien à la grande dame que Dieu a choisi et à ses enfants que j'aime dans la vérité. » Et dans sa troisième, « L'ancien à mon bien cher Gaius que j'aime dans la vérité. » Soit Jean dit « C'est l'homme âgé qui vous écrit » ou bien « C'est le responsable d'église qui vous écrit » ou alors il joue sur la double signification du mot et dit « C'est le responsable d'église, l'homme âgé qui vous écrit ». En tout cas, comme c'est un homme mûr et doté d'une très grande expérience de la vie chrétienne qui écrit, nous devons l'écouter attentivement.